Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 à l'écoute de l'émission Radio Nippon, le programme qui vous fait voyager à travers la culture japonaise. Laissez-nous donc vous faire découvrir cette culture qui nous passionne au fil des récits et des rencontres un mardi sur deux à 13h. Aujourd'hui dans cet épisode, on commencera par les actualités autour de la culture japonaise en Anjou et ses environs, mais également un retour sur l'actualité passée de ces 15 derniers jours, les Japan Games.
Bonjour à toutes et à tous. Tout à fait Léandre, effectivement, les Japan Games, ça a été l'événement de ces 15 derniers jours, et franchement, quel retour.
On verra aussi la deuxième partie de l'émission, on retrouvera David et Xavier.
Bonjour à toutes et à tous.
Afin de développer les sujets qui leur tiennent à cœur.
Tout autant, David, avec Mangalu, il a commencé, il va continuer. Et moi, je vous embête toujours et encore avec ma partie histoire et ma petite chronique histoire.
Et bien entendu, quelques pauses musicales présentées par Victoria.
Oui, et d'ailleurs, cette fois-ci, nous allons pouvoir retrouver du Baby Metal. Elle va pouvoir vous expliquer et vous expliciter tout ce groupe et les différentes musiques.
Sans transition, les actus.
Sans transition, effectivement, les actualités, puisque nous allons pouvoir commencer, cette fois-ci, par des concerts à Paris, et notamment Baby Metal. En effet, Baby Metal va se produire le 9 février prochain à l'Élysée-Montmartre à Paris. Victoria vous expliquera un petit peu plus en détail ce groupe. Si vous êtes les chanceux qui ont déjà réussi à avoir une place, vous pourrez les retrouver le 9 février prochain à l'Élysée Montmartre, 72 boulevard de Rochechouart à Paris. Et pour tous les autres qui n'ont pas réussi à avoir une place, vous pourrez en profiter sur toute cette émission avec au moins une pause musicale de Baby Metal. Victoria, nous t'écouterons. On continue ensuite avec un deuxième concert, encore une fois à Paris, puisque ça va être un concert de Crossface. Crossface est un groupe de métal d'origine nippone. Ils vont se produire très prochainement le 10 février à La Boule Noire, 120 boulevard de Rochechouart à Paris. Car le reste du temps, il sera sur un centre commercial à Paris. On continue avec des concerts, mais cette fois-ci un concert un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de vous présenter. Un jazzman japonais, du nom de Toku, sera en représentation en France pour plusieurs dates. J'en ai retenu une particulièrement, puisque au moins celle-ci, elle est assez facile à retrouver, car le reste du temps, il sera sur un centre commercial à Paris. Donc, je vais vous parler du fait qu'il sera présent le 15 février prochain à la Maison de la Culture Japonaise à Paris, 101 bis Quai Branly. Les places sont réservables assez facilement sur la Maison de la Culture Japonaise à Paris, et sur très exactement leur site, www.mcjp.fr. Nous allons terminer ces actualités avec Ciné Légende. Ciné Légende est une petite association angevine qui propose assez régulièrement des cinémas et des films. Pour une fois, ils ont décidé de développer un film d'un auteur japonais. Aussi, vous allez pouvoir trouver une projection du film Notre Petite Sœur de Hirokazu Kore-eda le mardi 11 février à 20h. Ça se déroulera au 400 coups de rue Jeanne Moreau à Angers. À la suite du film ce mardi 11, la nuit se continuera avec un débat avec Gildas Jaffrenou, spécialiste du cinéma japonais. Nous allons continuer le vendredi 14 février avec toujours Ciné Légende et cette fois-ci un atelier d'écriture de haïku. Et un repas qui sera animé par Patrick Gillet, professeur d'écologie et d'haïku à LUCO. Cet atelier de haïku se déroulera à l'Université catholique de l'Ouest, très exactement au pôle scientifique, 44 rue Rabelais, salle 323. Si vous ne connaissez pas les haïkus sont des sortes de petits poèmes japonais faits en trois vers qui ont tendance à être très populaires là-bas et qui ont une très grande influence historique. N'hésitez surtout pas à vous y rendre puisque Patrick Gillet est vraiment un spécialiste. Enfin, nous allons terminer et clore ces actualités avec un atelier de cuisine japonaise animé par Soleil Levant. Et d'ailleurs, Léandre, tu vas pouvoir nous présenter, d'ailleurs tu vas pouvoir le dire en petit exclu, qu'est-ce que tu vas présenter comme recette ?
Je serai donc présent ce dimanche 16 février afin de proposer une activité cuisine au restaurant Paku Paku au sein de leur cuisine afin de montrer une recette du Kare Raisu, un ragoût japonais très populaire là-bas, plus ou moins épicé, plus ou moins végétarien selon les envies.
Merci Léandre, donc on rappelle juste, ce sera le dimanche 16 février au Paku Paku, 32 rue Bressigny à Angers. Et d'ailleurs tu seras pas tout seul puisque je serai également présent afin de pouvoir proposer des petits onigiri. Toutes ces actualités de ciné-légende sont pour la plupart relativement payantes et sur réservation. Nous vous invitons donc à prendre contact avec Monsieur Parrain au 02 41 86 70 80. Je me répète, 02 41 86 70 80. J'en ai terminé pour les actualités qui, pour cette fois-ci, étaient assez denses alors qu'on a connu un mois de janvier relativement creux. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir pas mal d'actualités sur le Japon. Bien évidemment, chers amis auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, réactions sur l'adresse mail de l'émission radio-nippon1@gmail.com, y compris si vous voulez des petits compléments d'information sur toutes les actualités que nous avons énoncées.
Merci beaucoup Xavier, et maintenant passons aux actualités passées. Et maintenant, le retour sur les actualités passées, ou devrais-je plutôt dire l'actualité passée autour de la culture japonaise en Anjou ces 15 derniers jours. La date à retenir, c'était le 25 janvier dernier, où à la maison de quartier Angers-Centre, durant toute l'après-midi, s'est déroulé l'événement Japan Games, événement organisé par Soleil Levant, autour de cette journée justement basée sur les jeux japonais en général, avec deux pôles bien distincts au sein de l'après-midi. Il y a eu un pôle géré par Xavier principalement pour tout ce qui était autour des jeux traditionnels et jeux de société japonais.
Enfin, géré par moi principalement, heureusement quand même que j'ai eu 2-3 autres personnes pour m'aider, et notamment Ren Meiyan Jeshogi qui était présent. Parce que j'avoue que finalement on a fini plein à un moment. Il y avait pas mal de jeux, franchement on a vu beaucoup de monde, c'était assez énorme. Mais le deuxième pôle qui a attiré beaucoup de gens aussi, c'était le tien Léandre, puisque tu devais organiser toute la partie jeux vidéo.
Oui, la partie jeux vidéo en effet, on a appené différents jeux bien japonais, avec beaucoup de jeux musicaux je trouve, avec la présence de Poppin Music, Taiko no Tatsujin sur Switch, et l'attraction de ce pôle, c'était les tapis DDR, Dance Dance Revolution, jeu de danse du coup, avec ses quatre flèches à appuyer frénétiquement avec ses jambes.
En rythme avec la musique.
Toujours. Voilà, c'était vraiment l'activité. Et il y avait également aussi un autre événement notable de ce pôle jeux vidéo, c'était le tournoi Samurai Showdown. On peut féliciter du coup les trois gagnants. En première place, Kiriyaka. En deuxième place, on a eu Yoda. Et en troisième position, Kachan. Félicitations à tous les trois qui ont remporté de très beaux lots.
En effet, félicitations à tous les trois. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en retour de cette Japan Game, c'est que c'est une grande réussite. Après tout, on a réussi à accueillir plus d'une centaine de personnes.
Oui.
Et il faudra quand même remercier tout particulièrement notre président. Parce que sincèrement, il s'est ramené en cosplay de Zabuza, les bras littéralement nus, et il était dehors en train d'appâter tout le monde. Il s'est amusé à prendre des positions et des poses quand le tram passait, tout le monde était en train de le prendre en photo. J'avoue, c'était trop drôle. Très sincèrement et très honnêtement, Léandre, si tu devais dire un mot que tu retiens de cette Japan Game, ce serait quoi? Un mot, un événement?
L'amusement. Tout simplement. C'était sous le signe de l'amusement. Tout le monde est venu, tout le monde a joué à quelque chose, tout le monde s'est amusé. Donc l'amusement est le principal mot de cet après-midi.
Eh bah bizarrement, pour moi, ce sera bonheur, parce que sincèrement, j'ai vécu un grand moment de bonheur. Bizarrement, comme quoi, on s'y retrouve bien. Enfin bon, on peut vous dire que une future Japan Games aura bien lieu assez prochainement. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons retrouver David avec sa petite chronique sur Mangalu.
Et salut à tous, c'est David, et c'est maintenant moi qui vais prendre la suite de cette émission avec ma chronique manga. Durant cette chronique, je vais vous parler de l'événement Mangalu et je vais vous présenter un manga de la sélection Mangalu. Petit rappel, donc je vous invite à écouter les émissions en podcast sur le site de Radio G pour redécouvrir cette chronique, car dans celle-ci, on décrit en fait les différents mangas de la sélection Mangalu. Je reprends tout de suite ma chronique avec aujourd'hui le manga La Lanterne de Nyx, qui est dans la catégorie Seinen. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce manga. Nous sommes en 1878. La France fait rayonner sa puissance industrielle et sa culture en organisant des expositions universelles. Tandis que le Japon s'ouvre au monde après 200 années d'isolationnisme, à Nagasaki, Mio, orpheline qui a pour seul talent le don de clairvoyance, au travers des objets qu'elle touche, parvient à trouver un emploi chez Ban, commerçant en fait qui vend des objets importés d'Europe. Au contact de l'Occident, elle découvrira un monde nouveau qui la conduira jusqu'à Paris. Voilà un petit peu pour ce descriptif au niveau des détails. Donc c'est un manga de la mangaka Takahama Kan aux éditions Glénat, donc dans la collection Seinen. Un genre tranche de vie fantastique parce que la petite a un don de voyance. Voilà, donc c'est un titre qui est sorti au Japon en 2015. Il y a actuellement 6 tomes, donc 4 qui sont sortis en France. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce manga, hein, c'est ce que vous attendez bien sûr. Donc déjà, au niveau de la couverture du manga, donc en fait c'est simple, hein, ça nous fait penser à une affiche de l'exposition universelle. Le format du manga est un peu plus gros que le format classique manga. Donc une belle couverture en couleur, très très dynamique. Ensuite, au niveau du dessin, donc déjà sur les premières pages, on a des pages couleurs. Le dessin est très simple, hein, un peu esquissé, je trouve, dans des différents tons de gris. Les arrière-plans sont stylés. On est à l'époque du Japon, donc début 1900, c'est vraiment pas mal. On voit pas mal. On peut se rendre compte de ce qu'était le Japon à cette époque. Voilà, au niveau du dessin. Ce qui est cool aussi. C'est que tous les chapitres, voilà, y a souvent des pages qui racontent une histoire sur les objets qui sont vendus dans la boutique. Donc c'est très bien renseigné et c'est très intéressant, on apprend plein plein de choses, notamment par exemple sur les premiers chocolats qui sont arrivés au Japon. Voilà, c'est super intéressant. Au niveau de l'histoire, bon, j'ai fait le résumé tout à l'heure, mais histoire ouais, très intéressante. C'est un peu un manga qui, dès le début en fait du manga, en gros, on comprend que l'héroïne, on la voit, c'est une grand-mère au début du manga. En fait, elle raconte un souvenir. Elle raconte sa vie en fait. Donc en fait, voilà, on est directement plongé dans un souvenir, dans le passé. Et du fait qu'elle ait un don de clairvoyance où elle voit l'avenir et le passé des objets qu'elle touche, voilà, on a toujours un lien avec le temps. Et ça, je trouve ça sympa, les petits allers-retours comme ça. Temporel. Et puis voilà, ouais, tous les personnages sont intéressants. On découvre un peu plus sur chaque personnage dès qu'on lit l'histoire. Enfin, c'est un manga intéressant, voilà, sur l'ouverture du Japon à cette époque. Donc on peut voir la transformation progressive du Japon à cette époque, voilà. Donc ça, c'est cool. Voilà ce que je peux vous dire sur ce manga. J'espère que ça vous aura donné envie de le lire. Moi, j'aimerais bien lire la suite. Donc y a plus qu'à. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Radio Nippon pour les prochaines émissions. Je vais laisser la suite à mes petits camarades. Allez, salut!
Et pour cette pause musicale, je vais vous parler de Baby Metal, un trio de jeunes femmes faisant du kawaii metal. Entendez par là un mix de pop japonaise et de heavy metal. Formé en 2010, le groupe propose un style unique mêlant idoles et sons empruntés au metal. Revenu l'année dernière avec un troisième album, c'est aussi l'occasion pour elle de revenir sur la scène européenne en ce début 2020 pour enflammer Paris et Bruxelles. Sans plus tarder, écoutons donc leur titre phare, Ijime Dame Zettai.
Du coup, là, on va pouvoir continuer sur l'histoire du Japon. Parce que je sais, je vous embête avec mon histoire du Japon, mais je reviens encore et toujours, elle n'est pas encore finie, on n'est pas arrivé à l'époque actuelle. Pour resituer un petit peu, on avait vu la dernière fois toute la vie d'Oda Nobunaga. J'avais fait un petit focus sur Oda Nobunaga. Quentin, je vois déjà que tu es désespéré de l'avoir loupé.
Ouais, je suis un peu déçu de ne pas avoir été là quand même.
J'avoue, mais tu peux réécouter toutes les émissions sur le site de Radio G en podcast, il n'y a pas de souci. Pour revenir sur Oda Nobunaga, qui était l'un des trois grands unificateurs du pays, on revient sur le fait qu'il est mort en 1582, avec une mort très bête, par Harakiri, puisqu'il a réussi à se faire avoir tout bêtement par un général ennemi, vu qu'il n'avait que très peu de monde autour de lui. Dans tous les cas, en 1582, le Japon est presque enfin unifié. Lui qui était complètement divisé et séparé, mais Oda Nobunaga étant mort, le Japon risquait à nouveau de s'éclater en plusieurs morceaux. Pour éviter ça, ses deux plus proches généraux, qui sont Tokugawa Ieyasu et Toyotomi Hideyoshi, vont chercher à agir dans l'ombre pour réussir à éviter ce nouvel éclatement. Et le premier à agir, vous savez lequel des deux c'est ?
Tokugawa.
Perdu. Tokugawa, ce sera le dernier, et ce sera effectivement celui qui va maintenir à la fin la dynastie des Tokugawa pendant l'ère Edo. Donc c'est Toyotomi Hideyoshi. C'est lui qui agit en premier. Et il commence déjà à agir deux ans après, en 1584, où il réussit à faire élire Shogun, le fils Nobunaga. Mais derrière avoir fait élire le fils de Oda, il garde quand même le pouvoir dans ses mains. Et en gardant le pouvoir dans ses mains, il arrive du coup à maintenir et à faire imposer le maintien de la guerre face aux seigneurs qui restent encore dissidents, qui n'ont pas accepté cette unification. Et donc il va toujours partir en guerre face aux daimyo. Mais c'est pas la seule chose qu'il fait, puisqu'il fait quand même quelque chose de très intéressant pour le pays à l'époque. Il va adopter un plan de recensement général de toutes les terres, va rendre les paysans propriétaires et solidaires de leurs terres, et va surtout établir une responsabilité collective de l'impôt. Donc c'est pas tout un chacun qui doit tant d'impôts, c'est bah vous êtes tout le village, vous êtes le village untel, vous devez tant d'impôts. Mais un impôt quand même assez élevé, puisqu'il va être de 40 à 50% de la récolte de riz. C'est quand même assez énorme. Si vous ne payez pas, vous êtes reconnu comme dissident et donc on vous brûle. Juste une année après, 1585, Hideyoshi en devient de fait l'homme le plus riche du Japon. Comme il récolte beaucoup d'impôts, au final, lui récolte beaucoup d'argent. Il a même mis en place un système pour comparer les différents daimyo entre eux en quantité de litres de riz. C'est très exactement une unité de mesure, c'est le koku de riz, et c'est 180 litres de riz. Ils sont pas en base 10, eux, je sais pas pourquoi. Et du coup, il en devient l'homme le plus riche du Japon. Et comme il est l'homme le plus riche du Japon en 1595, il finit du coup par financer la totalité de la cour impériale, donne des fêtes splendides et majestueuses, et littéralement patronne tous les arts et les lettres. Il fait un petit peu comme Louis XVI, c'est-à-dire qu'il finance beaucoup les arts et les lettres. C'est quand même un des avantages, et donc le Japon s'est pas mal développé durant cette période. Cependant, même si Hideyoshi est l'homme le plus riche du Japon, il est toujours pas satisfait. Il est tellement pas satisfait qu'il finit par favoriser le développement des mines d'or et d'argent afin de pouvoir faire battre sa propre monnaie. Il avait juste envie d'avoir son effigie sur les monnaies, sur les pièces. Et donc il réussit à faire battre sa propre monnaie en 1585. Durant toutes les années qui suivent jusqu'à 1590, il continue sa lutte incessante face à tous les daimyo indépendants. Et en 1590, ça y est, il réussit. Plus aucun daimyo n'est dissident. Le pays est 100% unifié. A noter quand même qu'il reste un daimyo indépendant auquel il ne touchera pas. Je te laisse deviner tout de suite, Fanny, qui c'est ?
Tokugawa.
Tokugawa Ieyasu. Bonne réponse. Mais comme je vous l'ai dit, il est toujours pas satisfait. Alors est-ce que vous savez vers qui il va se diriger en 1592 ?
Les Chinois ?
Presque.
Les Coréens ?
Gagné. Les Coréens avec en perspective la Chine en ligne de mire. Et en 1592, effectivement, pour occuper ces hommes qui commençaient à s'ennuyer, cette fois-ci, ils visent carrément la Corée. Et en 1592, il arrive à envahir la Corée et même à prendre Séoul. Mais faut être honnête, quand c'est trop, c'est trop. La campagne coréenne, durant les années qui vont suivre, va subir des revers sur revers et les généraux chinois finissent par repousser les Japonais, puisque les Chinois sont venus aider les Coréens. Hideyoshi montre alors en plus des signes d'aliénation mentale. En effet, il contraint son neveu, désigné successeur, au suicide. Bon, d'un autre côté, c'est peut-être un mal pour un bien parce qu'il était reconnu comme cruel et complètement débauché. Il arrive en 1595 à faire nommer son fils Kampaku. Kampaku, c'est celui qui fait la liaison entre le gouvernement et le shogun. Mais son fils est âgé de 3 ans, c'est logique. Et je vous fais pas toute la liste parce qu'elle est quand même relativement longue.
Ça, c'est du piston dans
le piston de la moelleté.
Vous verrez, il a du potentiel.
J'avoue. Donc cette aliénation mentale est également le signe annonciateur de sa mort, puisqu'en 1598, Hideyoshi finit par décéder. Et quand il décède, les généraux japonais en Corée abandonnent la Corée avec d'autres desseins et d'autres ambitions. Retourner au Japon et prendre le pouvoir, prendre les rênes du pouvoir. Mais ça va pas se passer tout à fait comme ça. Puisque là, j'ai même plus besoin de poser la question. Vous vous souvenez comment s'appelle le deuxième général ?
Tokugawa !
Tokugawa Ieyasu. Et Tokugawa est de retour. Il finit donc par faire assassiner tous ses dissidents, tous ses daimyo dissidents et débuter sa dictature en 1600, grâce notamment à l'une des batailles les plus sanglantes qui est restée littéralement dans les annales de l'histoire du Japon dans l'année 1600. C'est la bataille de Sekigahara. C'était tout pour Hideyoshi, parce que je me garde quand même Tokugawa et Ieyasu pour en faire un petit bout un peu spécifique et focaliser un petit peu dessus, puisque ça va être le début de l'ère Edo, l'ère des Tokugawa. Donc justement, là, celui-là, je veux le focaliser un petit peu plus. Bah, je vous remercie à vous de m'avoir écouté. On vous retrouve dans 15 jours, même lieu, même heure, sur Radio Nippon.
Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter toujours plus de Baby Metal avec une autre chanson que les fans devraient reconnaître. C'est parti pour Megitsune. Sur ce, bonne écoute et à dans 2 semaines. Même lieu, même heure, sur Radio Nippon.
Tanzeo.
Radio G.